Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Très très bon. Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire en ce vendredi 4 octobre. C'est officiellement le début du mois de l'horreur. Il y a plusieurs cinéphiles qui font cette espèce de calendrier de l'avant-là, avant l'Halloween justement, en écoutant un film d'horreur par jour. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si oui, bien on vous salue. Vous êtes déjà bien avancé avec trois visionnements à cette date. Je l'ai déjà fait moi, mais je ne suis pas un grand fan de cinéma d'horreur. Donc que je ne le fais pas à chaque année non plus. Je vais quand même faire l'effort, peut-être de faire un peu de rattrapage, soit sur les films d'horreur de cette année, ou sinon sur certains grands classiques. Mon ami Jesse Anctil m'a mis au défi d'écouter quelques films de Cronenberg, notamment The Fly, que je n'ai jamais vu. Donc, j'essaierai de le faire. Et puis... je vous en parlerai si jamais je parviens à le faire. Aujourd'hui à l'émission, on a un programme quand même assez chargé. Il y a Maxence Gagné qui revient cette semaine pour nous parler de She Wore a Yellow Ribbon, un film de John Ford de 1949 qui met en vedette John Wayne. Donc, on discute de tout ça un peu plus tard à l'émission. La semaine dernière aussi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'équipe de La Petite et le Vieux. Donc, Patrice Sauvé, Marilyn Castonguay, Gilda Roy n'était pas présent à l'avant-première, mais on avait le scénariste également, donc qui est Sébastien Girard, et on avait bien évidemment donc Juliette Baroucha, donc qui interprète le rôle titre. Donc on va diffuser cette entrevue là qu'on a réalisée. Je vais en parler quand même un petit peu parce que le film prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma et un peu partout aussi au Québec. C'est ça, donc on va faire un petit topo aussi sur de l'actualité cinématographique. Il y a eu deux décès notables cette semaine. Dame Maggie Smith, évidemment, la jeune génération la connaît pour Professor McGonagall dans les Harry Potter, peut-être Mrs. Doubtfire, Downton Abbey, ses rôles un peu plus récents, mais on oublie souvent qu'elle a eu une très longue carrière, qu'elle a remporté deux Oscars quand même dans les années 60 et 70. Et puis, c'est peut-être parce que c'était des films plus britanniques qui se sont peut-être un peu moins exportés, mais vraiment une carrière très, très intéressante que cette grande dame du cinéma britannique a pu nous livrer. Elle est décédée, je crois, à l'âge de 89 ans. Et on a Michel Blanc aussi, là, qui hier est décédé, malheureusement. Michel Blanc, bon, évidemment, un grand acteur comique français. Je vais parler dans mon micro. J'ai pas vu beaucoup de films de lui, malheureusement, dans les dernières... j'ai vu quelques classiques, là, Le Père Noël est une ordure. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Est-ce que c'est lui qui joue dans La Cage aux Folles? Bref, il a quand même une très longue carrière, lui aussi, là, une quarantaine d'années dans le métier. Les Bronzés, bon, c'est ça, il a joué dans beaucoup de films aussi de la troupe, justement, Les Splendides. Vraiment un très grand acteur français. Et il me semble qu'il avait gagné un César à un certain moment. Il a gagné un prix honorifique des Césars, là, ce qui est quand même pas rien, en 2021. Il avait gagné meilleur acteur de soutien dans L'Exercice de l'État, ainsi que dans Les Témoins en 2008 comme meilleur acteur. Et l'année d'avant aussi, les trois autres, c'était des nominations, en fait. Je vous trouve très beau, embrassez-moi comme vous... Embrasser qui vous voudrez, pardon. Grosse fatigue, Monsieur Hir, tenue de soirée, marche à l'ombre. Bref, quand même un habitué des Césars. Il avait gagné aussi meilleur scénario pour Grosse fatigue en 94 à Cannes. Vraiment très, très... il avait gagné aussi meilleur acteur, mon Dieu. J'en découvre plus j'en regarde. En tenue de soirée aussi, à égalité avec Bob Hoskins de Mona Lisa. Donc, meilleur acteur à Cannes. Batman et meilleur acteur au César en 2012. Bref, une carrière très très longue de ce grand comique français. Donc, écoutez un film de Michel Blanc pour l'occasion ce week-end. Au niveau des nouveautés, j'ai mentionné évidemment La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé qui prend l'affiche. Il y a également la grosse sortie, c'est Joker Folie à deux. Donc, ce nouveau projet un peu étrange de Todd Phillips, qui est la suite de Joker, là, bien évidemment, qui est cette fois une comédie musicale, un film peut-être qui... essaie de briser la forme traditionnelle des films de super-héros. Ça met en vedette aussi Lady Gaga, ça met en vedette Zazie Beetz, qui était aussi du premier film, Brendan Gleeson, Catherine Kinnear. Les critiques ne sont pas très, très chaudes, malheureusement. Elles ne sont pas désastreuses non plus. Plusieurs parlent d'opportunités manquées ou de films un peu plus... edgy, non, attends, un peu moins edgy qu'il ne laisse entendre, donc c'est dommage. J'avoue que moi, je n'étais pas un grand fan du premier non plus, fait que j'imagine que le 2 ne va pas me plaire, mais je vais quand même essayer de faire l'effort de le visionner, puis de vous revenir avec mes états d'âme. Sinon, parmi les autres nouveautés là, qui prennent l'affiche, il y a Amal, un esprit libre, qui était déjà sorti à Montréal le week-end dernier, mais qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma, le film de Jawad Ralib, qui est quand même assez apprécié, un film belge, qui est un drame social belge, vraiment... qui se passe dans une école laïque, puis on y suit une enseignante de français qui doit accompagner 3 de ses étudiants chez la directrice à la suite d'un incident. 2 élèves musulmans sont accusés d'avoir agressé une camarade de classe en raison de son style et de son orientation sexuelle. Pour tenter de promouvoir une certaine ouverture d'esprit, Amal propose à son groupe un livre inhabituel. Les réactions sont alors nombreuses et la situation s'envenime. Je crois, le sauf erreur, que Mediafilm lui avait mis... quelque chose comme 3. Je vais aller contre-vérifier mon information. Mais c'est ça, c'est un film qui... La réception critique est très, très bonne, qui fait parler de lui pour les bonnes raisons. Donc, allez voir ça. Ça prend l'affiche à la Maison du cinéma. Il y a mis 4 finalement, mais ça reste très bon tout de même. Sinon, il y a également Blink. Donc, un nouveau film National Geographic, Disney, en tout cas une drôle de production, qui est de Daniel Roer et Edmund Stenson. Daniel Roer, en fait, là, c'est en tout cas, il a gagné un Oscar, bref, pour le documentaire sur Navalny, l'opposant à Poutine en Russie. C'est un autre documentaire, celui-là. Donc, on suit l'histoire de la famille Pelletier, une famille heureuse et aventureuse de 6 personnes qui décident de faire le tour du monde après avoir appris que 3 de leurs 4 enfants perdront bientôt la vue à cause de la rétine pigmentaire, une maladie rare et incurable qui entraîne une cécité permanente. La famille se lance dans un voyage unique pour découvrir toute la beauté que le monde a à offrir pendant qu'ils peuvent encore la voir. C'est une prémisse très touchante, évidemment. Le film aussi a quand même une bonne réception critique. 4, encore une fois, selon Mediafilm. J'ai entendu des bons échos, donc pourquoi pas, hein, si vous aimez ces histoires touchantes. J'ai comme le feeling que ça va être un jour un film de fiction, là, cette histoire-là. Mais bon, on verra. Là, je laisserai pas trop parler mon cynisme non plus. Parmi les autres nouveautés qui prennent l'affiche, il y a White Bird, version Oiseau Blanc, en fait, version française de White Bird de Mark Forster, qu'on connaît notamment là, pour le pas très apprécié selon moi, La vie selon A Man Called Otto, là, qui était un remake du film scandinave. Il avait fait aussi Christopher Robin, World War Z, un des James Bond, il avait fait aussi Finding Neverland. Bref, quand même un réalisateur et une feuille de route assez bien. Cette fois-là, ce film-là, met en vedette Helen Mirren, Gillian Anderson, suit en fait un jeune, Julian, qui a été renvoyé de son école après avoir maltraité un confrère de classe. Dans le but de changer son attitude dans la vie, sa grand-mère juive entreprendra de lui raconter sa propre histoire de courage, revenant sur sa jeunesse passée dans la France occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Recueillie par un garçon et sa famille, elle tombera amoureuse de ce bambin dans un monde imaginaire créé de toutes pièces, pendant que la mère de celui-ci risque sa vie pour protéger sa jeune protégée. Donc un drame américain, britannique, bref. qui lui aussi, quand même, il ne fait pas beaucoup parler. Là. Les critiques sont correctes, mais je n'ai pas vu beaucoup de promotion sur ce film-là, donc ça va peut-être tomber un peu à l'oubli. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, donc c'est ça. Puis, ben, La Petite et le Vieux, ça prend l'affiche aujourd'hui, donc à la Maison du cinéma. Ça suit l'histoire de Joe, qui s'appelle aussi Hélène, qui c'est un coming of age qui se passe à la ville de Québec, ça, dans les années 80. C'est un film très... qui met de l'avant un peu l'esprit de communauté qui régnait à l'époque et qui règne de, malheureusement plus beaucoup aujourd'hui. Donc, cette vie de quartier-là, l'expression « ça prend un village pour élever une famille ou un enfant », ben ça prend un peu son rôle dans ce film-là. Donc, on suit justement Joe qui essaie justement de faire sa place un peu, qui essaie d'aider sa famille comme elle le peut, une famille classe moyenne, basse, là, si on veut, un professeur un peu blasé qui est joué par un père, en fait, de famille qui est professeur, qui est joué par Vincent Guillaume-Otis, une mère au foyer qui essaie d'élever au possible ses trois enfants. Et puis, ben c'est ça, cette vie de quartier-là, ben, se découle notamment avec Roger, donc qui est joué par Gilda Roy. Gilda Roy vraiment en feu dans ce film-là. Pour vrai, j'ai très, très belle interprétation de ce vieux homme bourru au bon fond, mais à l'apparence un peu sévère. On suit un peu ces deux personnages-là, alors qu'ils apprennent à se connaître, alors chacun vit des transformations dans leur vie, puis l'un apporte à l'autre des éléments qui les réconfortent dans leurs défis du quotidien. Donc, vraiment un film très touchant. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Là. D'ailleurs, c'était salle comble à la projection de la Maison du cinéma la semaine dernière. Il prend l'affiche aujourd'hui, puis au retour de la pause, on va pouvoir aller justement coup sur coup aller écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec, comme je vous disais, Patrice Sauvé, Sébastien Girard, le scénariste, Juliette Baroucha et Marilyn Castonguay, donc la distribution du film. Et tout de suite après, ce sera notre chronique sur She Wore a Yellow Ribbon avec Maxence Gagné. On vous revient en fin d'émission pour vous parler d'un projet spécial que je vais mettre sur pied très prochainement. Restez des nôtres.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation, le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, j'ai la chance de m'entretenir avec l'équipe de La Petite et le Vieux. Donc, j'ai avec moi Sébastien Girard, qui est scénariste du film, Patrice Sauvé, le réalisateur, Marilyn Castonguay et Juliette Baroucha, donc qui les actrices, en fait, du film. Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va bien, oui.
Je commencerai peut-être d'entrée de jeu sur parler un peu de la genèse de ce projet-là. Donc, j'irai du côté de Sébastien et de Patrice. Comment s'est née cette histoire-là, ce récit initiatique au cœur de la ville de Québec, là, une ville qu'on voit pas si souvent que ça non plus au cinéma. Donc, comment s'est né ce projet-ci?
Tout a commencé en fait en 2014, je crois, des producteurs, pas les producteurs du film qu'on a produit là, mais d'autres producteurs m'avaient présenté le roman adapté. Et tout de suite, à la première lecture du roman de Marie-Renée Lavoie, je suis tombé en amour avec l'histoire et j'avais écrit une première version. Ensuite, pour des raisons X, les producteurs n'ont pas voulu continuer. Et moi, j'ai toujours cru au potentiel de ce film-là, ici. Mais c'était des producteurs de Montréal. Et des années plus tard, en fait, en 2019, j'ai pu récupérer les droits sur mon scénario. Je me suis entendu avec la maison d'édition pour m'assurer que les droits étaient toujours libres. Et j'ai repris tout ça avec mon agent. On a trouvé j'ai dit, il faut que ça se passe à Québec, en fait, parce que l'histoire dans le roman, ça se passait à Québec. Donc, il fallait trouver des producteurs québécois à Québec. Et je l'ai envoyé à Marc et Sonia, qui sont tombés en amour avec le projet. Et ensuite, on a pensé à Patrice. Patrice, on se connaissait depuis plusieurs années. On avait déjà travaillé sur un projet ensemble. Et puis, je lui ai envoyé le scénario. Donc, c'est un peu comme ça que la jeunesse est faite.
C'est ça, on est vraiment passé d'un scénario tiré d'un roman qui a pris beaucoup de temps, en fait, à devenir réel. C'est toujours comme ça en cinéma au Québec.
Ouais.
Il y a quelque chose qui se passe, qui ça demande souvent de l'acharnement. Et Sébastien en a eu. La qualité du scénario, moi, je suis tombé en amour avec tout de suite. J'ai vu immédiatement un film qui avait beaucoup de cœur, un film dont, quelque part, le public avait besoin. j'avais l'impression, j'ai toujours l'impression, en fait, que le cinéma doit d'abord nous divertir, nous toucher. Et s'il peut, bien sûr, nous faire réfléchir à nos vies puis nous amener même plus loin dans notre compréhension des humains puis du monde. Mais il y avait là un immense potentiel, je trouvais, à faire du bien à l'âme des spectateurs. Mm-hmm. Puis je trouvais que ça convenait bien à une corde que, depuis des années, j'utilise moins dans mon travail. Je fais plus des séries, des thrillers policiers, ouais, avec Victor Lessard, La Faille et tout. Puis je retombais plus dans mes anciens amours comme La Vie, la vie, qui était une série télé. C'était pas un film, mais quand même, où ça sent la coupe, même qu'il y a quelque part quelque chose d'assez tendre dedans. Et il y avait cette dimension-là dans le scénario de Sébastien, inspiré du roman de Marie-René. Puis j'ai tout de suite voulu plonger.
Mm-hmm. Marilyn et Juliette, ben, vous faites partie un peu de cette famille-là qu'on suit un peu tout le long. Évidemment, on suit surtout ton personnage de Joe. Là. Comment est-ce que vous avez construit justement cette dynamique familiale qui est quand même pas nécessairement atypique, mais qui est un peu morcelée, si on veut. Là, il y a Vincent Guillaume-Motis qui est présent, mais un peu absent. Finalement, c'est une famille presque de quartier là, qu'on suit, et non pas juste une famille. Mais comment est-ce que vous avez créé cette dynamique de quartier ou dynamique familiale là, au sein du tournage?
Vas-y, Juliette.
je pense que tout de suite, moi puis Marilyn, on s'entendait bien. Puis c'était vraiment, était vraiment super fine, donc ça a été facile de pouvoir avoir comme un dynamisme avec elle. Puis les deux personnages, ils s'entendaient bien, mais la mère était un peu toujours stricte, donc je pense que ça allait comme... Genre Jo, elle savait de comment agir devant sa mère, mais elle savait aussi que sa mère, elle l'aimait beaucoup. Donc je pense que savoir que Marilyn n'était pas comme aussi stricte en vraie vie, ça allait comme aider à vraiment pouvoir mieux jouer le personnage, je dirais.
Mm-hmm. Ouais. De ton côté, comment est-ce que tu as approché ça, ce rôle de mère, vraiment, justement, de famille?
Ben, en fait, moi, je voyais ça... moi aussi, quand lui a plongé, quand Patrice a plongé, après le coup, il nous a tous embarqués dans son projet. Puis... en fait, ce que je vois, moi, c'est que la maison, c'est comme le noyau, le nid de rassemblement pour ce qu'elle vit à l'extérieur, puis ce qui, mm-hmm, ce qui va se déployer comme amitié aussi avec Gildor, qui joue le vieux.
Mm-hmm.
Et puis nous, on est en périphérie de ça, on la recueille au sein de la famille après toutes ces rencontres-là. Mais Patrice a été super parce qu'il nous a... Pour créer cette famille-là, il nous a toutes rassemblées dans ce lieu-là, ensemble, avec nos enfants, avec ce décor-là, puis cette façon de fonctionner, comment on avait mis nos... Comment c'était organisé dans cette maison-là. Fait qu'on a comme trouvé quelque chose de très organique puis très fonctionnel, parce que c'était comme ça aussi le rôle du père et de la mère. On est pas en périphérie, t'sais, on est partie intégrante de l'histoire, mais on est là pour supporter Jo, pour sa quête à elle, pour ce qu'elle suit. On est comme un pilier là-dedans. Et voilà. On a comme créé ça très pour les parents, je pense. Puis elle se devait être comme ça, la mère aussi, t'sais, assez droite, assez dans ses tâches-là. Fait que voilà, ça nous a aidé aussi à être dans, le concret.
Juliette, c'est ton premier rôle, premier rôle au cinéma. Ça a été comment, peut-être, justement, de travailler avec Gildor Roy? Ça a dû être compliqué parce que, tu sais, évidemment, il fait beaucoup rire dans le film. Je sais, il a dû faire rire aussi pendant le tournage aussi. Très charismatique. Mais comment ça s'est passé avec Gildor pour construire cette belle chimie qu'on voit à l'écran?
Il est vraiment gentil, donc ça a été vraiment facile de s'entendre bien avec. Puis dans le film, il fait beaucoup rire, mais je pense que quand je me mettais dans le personnage de Jo, je savais qu'elle, si elle vivait ça, elle ne rirait pas parce qu'elle savait que ça la faisait chier. Donc là, quand il faisait rire en vraie vie, tout le monde riait, c'était très drôle. Mais je pense que ça l'a aidé vraiment de ça. Genre, quand je jouais mon personnage, quand je savais, OK, là, je suis Jo, elle ne rirait pas aux blagues que Gildor y fait parce que elle est pas dans la circonstance de rire, puis elle veut pas vraiment l'intégrer au début dans sa quête d'héroïne, mais quand elle réalise qu'il l'a sauvée, elle est comme, OK, c'est peut-être pas juste à moi d'aider les autres, puis je dois laisser les autres aussi aider les gens autour de moi.
Mm-hmm.
Je pense que ça l'a vraiment C'est ça.
C'est très facile ouais. de jouer avec Juliette aussi parce qu'elle est très, très professionnelle. C'est son premier film. Elle avait tout à apprendre, les codes d'un tournage. Tu sais comment... Puis c'est beaucoup de travail, en plus de l'école, tu sais, ces enfants-là, ils vont aller là-dedans. Là. Donc, je suis sûre qu'avec Gildor aussi, il a apprécié ça, tu sais, ta rigueur, puis... Fait que voilà, c'est une super partenaire.
Ouais. Patrice, sans nécessairement lancer des fleurs, parce qu'on est dans la même pièce aussi, mais qu'est-ce qui t'a fait sentir que Juliette, justement, était la petite idéale, et même du côté de Gildor aussi, qu'est-ce que chez Gildor tu trouvais intéressant justement dans le rôle du vieux?
Ben en fait, Gildor, ça me prenait une personne qui a au moins l'apparence, ou on peut facilement tricher l'apparence d'une personne vieille aussi en 1981, et pas nécessairement comme aujourd'hui, là, dès que t'étais usé par la vie dans la mi-soixantaine très rapidement quand même à cette époque-là, dans un quartier ouvrier. Puis c'est vraiment une anecdote un peu particulière, c'est que je cherche qui va jouer donc le vieux, puis je suis dans ma voiture, puis j'écoute la radio. Puis l'animateur de radio avait interviewé Gildor la veille, puis commence en disant... hier, le monde m'a posé des questions, comment ça que j'avais la larme à l'œil avec l'histoire de Gildor. Fait que là, je porte attention. Puis c'est une anecdote comme quoi Gildor, sur le plateau de District 31, était sorti pour prendre l'air du studio, puis avait vu l'autre bord de la clôture du parking où était le studio un garçon qui l'observait très intensément. Il s'est approché du garçon, il s'est rendu compte que le garçon avait c'était un homme de 40 ans qui avait des petits autos dans les mains, puis qui était en fait quelqu'un qui avait une maladie mentale, mais qui semblait fasciné par lui. Derrière, une voiture vient se garer. Il y a un vieux monsieur qui sort, puis qui s'excuse à Gildor. Il dit « Excusez-moi, c'est mon fils. Il est un fan de District 31, puis de vous. Il se sauve de la maison, puis il vient vous voir. » Puis Gildor a pris la décision de les prendre tous les deux, puis les amener visiter le plateau de District 31. Puis il a dit au garçon avec les petites voitures « Si tu veux, mets tes voitures derrière, dans le bureau du commandant, lui, son rôle, mets tes voitures derrière sur les tablettes. Fait que quand tu vas regarder l'émission, tu vas voir que tu es venu sur le plateau. » Fait que moi, je suis dans la voiture, puis je viens comme les larmes à l'œil. Je suis vraiment touché par cette espèce de grand cœur de Gildor. Ouais. Je dis « Ben, c'est lui. » Puis je lui ai fait envoyer le scénario tout de suite, puis deux jours après, il m'a envoyé un texto, puis il m'a dit « Je suis ton homme », puis ça a été aussi simple que ça. On s'est retrouvés seulement presque un an après, quand on a eu le financement complet.
Okay.
Pour Juliette, ça a été un petit peu plus compliqué. On est passé quand même de 90 jeunes filles à Québec et à Montréal en audition pour arriver finalement, après les auditions, même à 10, à 6 ou 7 petites filles avec Gildor. Ensuite, il restait deux candidates. Puis ma grosse question, au-delà du fait que Juliette a tout de suite quelque chose de singulier au niveau de magnifique, au niveau de son visage, de sa curiosité qui apparaît, de sa beauté, de son côté cinématographique au niveau du regard et tout, son intelligence, il fallait que j'établisse un rapport de confiance avec elle. Puis savoir aussi, est-ce qu'on va bien s'entendre? Parce qu'au bout du compte, on tourne, mais on passe nos journées, on passe quasiment deux mois et demi ensemble côte à côte, malgré la différence d'âge. Est-ce que ça peut être une compagne de travail avec qui on va avoir du plaisir et qui va avoir confiance quand je lui demande de faire certaines choses, puis qu'on puisse vraiment bien travailler ensemble? Et j'ai été extrêmement choyé parce que ça a été plus que ça. Ça a été exceptionnel. Dans la vie, elle peut être insupportable pour ses parents, mais elle était magique sur le plateau. C'était vraiment, vraiment agréable de travailler avec elle. Et comme dit Marilyn, elle était extrêmement rigoureuse et préparée et travaillante.
Je me tourne encore vers vous, Patrice et Sébastien, pour recréer la ville de Québec des années justement 80 avec tout ce que ça implique. Il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées qui existaient puis que j'ai retrouvées. Là, je suis pas né dans les années 80, mais j'avais des legs début 90 quand même. Les fameux jus dans des sacs, dans des poches là, et tout. J'avais oublié que ça existait, mais je me souviens d'en avoir déjà bu. Comment ça représentait quoi? Peut-être les défis d'adapter un récit d'époque, là, ce qui n'est pas nécessairement très commun au cinéma.
Les jus, c'est le cœur du film. c'est plus Patrice qui pourrait répondre pour ça, parce que moi, en fait, sur papier, le roman, ça se passait en 1980, dans ces années-là. Il y avait beaucoup de références. Moi, j'en ai ajouté un peu plus, parce que moi, ce sont mes années aussi à moi. Et puis après, c'est des défis logistiques que Patrice peut...
Parce qu'on se retrouve, bien sûr, on n'a pas les moyens des films américains ou même certains gros films européens, donc on doit trouver premièrement un quartier qui convient narrativement, mais qui n'a pas trop bougé dans le temps. Là, on est à Saint-Jean-Baptiste beaucoup dans Québec, des rues étroites, mm-hmm. pas de trottoir à la maison directement sur le trottoir avec les poteaux de téléphone. Et ça, ça n'a pas beaucoup changé. Certaines portes ont changé qu'on a dû modifier. Puis à partir du moment où tu remplis ça de voitures d'époque, les voitures du futur en arrière-plan, tu vois moins, tu effaces ouais. en post-production, bien sûr, les tours qui peuvent apparaître, qui ont poussé les années 90 ou mm-hmm. 2000. Ça, c'est un élément qui était important. Ce qui était le fun aussi, c'est sans faire nécessairement un trip nostalgique, il y avait le plaisir de retrouver justement les sipsacs qu'on buvait. Ouais. Les vélos, c'était des CCM Cheetah dans ce cas-ci, ou moi, c'était un Mustang à l'époque que j'avais. La rouleuse à cigarettes. Mm-hmm. Ouais, le fait ouais. que les gens fumaient beaucoup à l'époque mm-hmm. aussi, travaillaient avec ça. Puis dans le quartier ouvrier aussi, la bière était sur le perron et tout ça. Là, fait que...
Ouais, à l'intérieur ouais. avec quatre enfants, ben oui, un bébé, c'est fondamental.
Oui. Le vélo pas de casque aussi.
Ouais.
Puis aussi, une autre affaire qui était fondamentale, la distance permise pour un enfant pour explorer son monde à cette époque-là était de plus de 2 ou 3 kilomètres. Tant que tu revenais mm-hmm. pour souper, c'était correct. Aujourd'hui, c'est 200 mètres, ouais. dans la logique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était le fun, mais c'est sûr que c'est un défi de bien cacher. Tu te pannes ta caméra à droite d'un mètre de plus, ça vient de coûter 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $. Fait qu'il faut être habile et malin, disons, pour trouver mm-hmm. des solutions pour pas... Il y a quelques anachronismes dans le film. Moi, je les vois. J'espère que vous ne les verrez pas, à moins que ce soit votre quatrième visionnement. Vous verrez bien, mais il y en a certains que j'ai pas pu sauver, disons.
Je ne les ai pas vus, donc parfait. C'est bon. en terminant, ben, c'est ça, là, vous continuez un peu votre parcours du Québec à coup de première. Vous étiez de passage, justement, à Sherbrooke pour l'avant-première du film. C'est quoi l'objectif avec ce film-là? C'est d'attendrir, c'est une carte, une belle, justement, lettre d'amour un peu à cette époque-là. C'est l'esprit de communauté. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne peut-être des films de vos personnages?
En fait, le cinéma, c'est pas une lettre d'amour à cette époque-là dans la mesure où je pense que la plus belle époque à vivre, c'est celle d'aujourd'hui. Ce qu'a permis l'époque des années 80, c'est de mesurer la différence puis nous aider même à mieux comprendre le temps dans lequel on vit. Mieux comprendre le temps dans lequel on vit puis mieux comprendre parfois ce qui nous manque dans notre temps. Donc, il y a certains codes de rapports humains, de rapports sociaux et de posture du personnage principal de Joe, de la petite fille. Comment elle aborde le réel, comment elle cherche des solutions à travers l'imaginaire pour aider à ce que la réalité soit mieux, que les gens qu'elle aime soient mieux. Je pense que le message est plus autour de ça. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je ne peux pas vous demander de payer X dollars pour venir au cinéma sans vous donner l'impression de vous donner un bon spectacle. Mm-hmm. Je crois que c'est d'abord ça. Vous sortir de votre réalité, vous transporter dans un autre monde qui, ici, est un monde du passé. Mais c'est d'abord le monde de Joe. Hélène Joe, elle apporte mm-hmm. deux noms ouais. dans le film. Puis c'est un monde qui est fait d'espoir puis de croire vraiment qu'avec la bienveillance, on peut transformer le monde. Fait que s'il y a un gros message, c'est ça. Mais c'est d'abord un espace de cinéma où je pense que vous allez rire et peut-être je réussirai à vous tirer une larme, mais pas de tristesse, mm-hmm. mais bien d'être touché par la beauté des amitiés et des amours des personnages dans le film.
Mm-hmm. Je crois vraiment que les gens vont être touchés par ce film-là, là, si je me fie aux gens qui étaient présents avec moi, les autres journalistes aussi qui étaient présents, vraiment, là, c'était très touchant. Vraiment, là, je vous félicite vraiment pour ce film-là et j'y souhaite longue vie. On sait à quel point le premier week-end au box-office est quand même assez crucial ici. Donc, on va se souhaiter justement une longue vie au film. Sébastien, Patrice, Marilyn et Juliette, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
Merci énormément de l'invitation, merci. Vraiment.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis, maintenant, on rejoint mon chroniqueur Maxence Gagné. Salut Maxence, ça va bien?
Bonjour, oui, toi?
Ben oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, quand on s'est parlé la dernière fois, là, tu nous disais que tu voulais un peu t'éloigner peut-être du cinéma français et pour aller explorer d'autres territoires. Là, cette semaine, tu nous proposes un film américain de John Ford. Je vais le dire une fois en anglais, puis après ça, on va le switcher en français parce qu'on va se perdre dans notre mauvais anglais. Mais « She wore a yellow ribbon ».
C'est ça, oui. En français, c'est « La charge héroïque ».
Pourquoi peut-être ce film-là? Pourquoi est-ce qu'il représente quelque chose pour John Ford ou pour John Wayne? Pourquoi avoir choisi ce film-là en particulier?
Ben, j'ai choisi ce film-là parce que des fois, j'ai l'impression... Je voulais parler de John Ford. C'est un réalisateur que je trouve important. Puis on en parle un peu moins maintenant. Même des réalisateurs qui réalisent des westerns, ils vont citer maintenant Sergio Leone ou Clint Eastwood, les western spaghetti, là, ou les westerns révisionnistes, dépendamment. Mais John Ford, c'est un réalisateur, moi, quand je l'ai découvert, qui m'a frappé... par la poésie qu'il peut apporter dans un genre qui, à cette époque-là, pouvait des fois être répétitif, disons. Mm-hmm. Et Chiwetel Ejiofor, on va l'appeler La Charge Héroïque. La Charge Héroïque, c'est un film qui était important pour John Ford aussi. Puis c'est pour ça que je l'ai choisi parmi les autres, parce que c'est un des films qu'il a fait tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il a participé, puis dans lequel il va aborder... la camaraderie qui unit les troupes. C'est comme, faut l'interpréter un peu comme une allégorie pour l'esprit de camaraderie que lui a connu durant la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. C'est un film, des fois, les gens disent qu'il a fait en l'honneur des vétérans. Ben, c'est un peu ça. Maintenant, on le critique pour être de la propagande, si on veut.
Ouais.
Ou très, mettons... conciliant envers le rôle de l'armée. Lui, mais il faut le voir à travers son regard à lui, parce que lui, il revenait justement de l'armée, puis il a perdu plusieurs de ses amis-là. Dans son équipe en tout, il a perdu 13 personnes. Puis pourtant, il n'était pas sur le front, là, il faisait d'autres documentaires pour lesquels il a gagné des Oscars.
Ouais.
Mais c'était quand même une job risquée, disons, parce qu'il a réussi, il a perdu 13 des gens en dessous de lui, là, de ses subordonnés.
Puis ce film-là, ben, comme tu le dis, là, c'est ça, arrive au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, arrive aussi pas mal au début du ralentissement du western en tant que genre. Là, dans les années 50, ça va subir quand même un déclin, malgré certains chefs-d'œuvre comme... High Noon, là, début des années 50. Mais tu sais, peu à peu, on s'en va vers un cinéma peut-être un peu plus dark du côté américain, ou un retour peut-être même au studio et tout ça. Puis le western, ben, c'est un peu lui qui mange la claque, un peu parce que j'imagine, c'est ça, il y a peut-être un peu moins de romantisme envers l'ouest américain du 19e siècle. Mais John Ford, c'est pas mal un de ceux qui a propulsé aussi ce genre-là dans les années 30 avec, bon, Stagecoach, là, évidemment, qui est quand même un grand classique. Il va faire d'autres classiques western aussi dans les années 50, là, mais globalement, c'est un genre qui est en ralentissement au moment où il fait celui-là. Parle-nous un peu du film. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui représente ce film-là?
Ben, dans le fond, le film, c'est un peu une suite spirituelle à Fort Apache, là. Mm-hmm. Un film qui a fait quelques années avant, qui raconte, mais qui c'est une adaptation du massacre de Little Big Horn, là. Pour faire vite, c'est juste une déroute de la cavalerie américaine dans une bataille contre les Autochtones, contre les Sioux, les Cheyennes et les Arapahos. Et donc, ce film-là, c'est si on veut une suite, mais pas tout à fait, parce que tu sais, on n'a pas les mêmes personnages. John Wayne, je veux dire, joue un rôle différent dans ce film-là. Mais on commence quand même le film où ils vont nous dire que le commandant Custer est décédé durant une bataille. La bataille n'est pas nommée, mais on s'entend que ils nous expliquent que si jamais il y a une autre défaite, peut-être que toute la conquête de l'Ouest pourrait être compromise. Mm-hmm. Donc c'est là que le film commence, mais il va plutôt se concentrer sur la vie à l'intérieur du fort qui est dirigé par le personnage de John Wayne, et aussi sur ce personnage-là de John Wayne qui est sur le bord de prendre sa retraite, là. C'est comme ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les westerns, ouais, ou dans d'autres films, là. Le vieux soldat un peu désabusé, là, qui fait sa dernière mission, là.
Ouais. Puis ça se passe jamais comme il souhaite. Puis, sans dévoiler trop du film, là. N'empêche que c'est ça finit toujours un peu... Ben, ouais, un petit peu en queue de poisson, ou en tout cas, jamais vraiment réussi à compléter sa mission. Ici, ouais, c'est ça, ben, John Wayne retrouve, justement, tu mentionnais, c'est comme la suite un peu de Ford Apache, c'est aussi un peu, ça fait comme partie d'une trilogie avec Rio Grande aussi, là, qui sort l'année d'après, là. C'est pas la première collaboration ensemble entre Wayne et Ford, et c'est peut-être pas nécessairement la plus mémorable non plus. Par contre, le film a quand même reconnu. Ben, premièrement, j'ai trouvé vraiment John Wayne très, très bon là, dans ce rôle-là, mais il est surtout reconnu, je pense, pour la direction photo qui a gagné un Oscar, un film en Technicolor, un des premiers films en couleur de Ford. En fait, c'est son deuxième, là, si je ne m'abuse.
C'est ça, il y a eu une période entre 1939 et 1949, ben, c'est la sortie de ce film-là, où il a fait juste des films en noir et blanc, dans le fond. Il s'est essayé en 1939 avec un film en couleur. Puis pour des raisons, je pense qu'il était insatisfait du résultat, il est retourné au noir et blanc. Là.
Ouais.
Mais c'est,
ouais, vas-y.
C'est sûr que, comme beaucoup de films de John Ford, il affectionnait beaucoup la Monument Valley,
ouais.
le parc national aux États-Unis, puis on le voit dans ce film-là. Puis ce qui est particulièrement frappant, si on en a vu d'autres, c'est que tu peux des fois reconnaître, je sais pas si ça s'appelle des monolithes, là, pas nécessairement, mais tu sais, les ouais. structures, tu peux les reconnaître de film en film tellement ils sont... Il occupe de la place importante dans l'écran. Tu peux dire, ça a été tourné pratiquement au même endroit que tel autre film, mais d'un différent angle, parce que tu vois la même structure rocheuse, mais sur un angle différent. En tout cas, moi, ça, ouais. À chaque fois, ça m'intrigue. Là.
Ouais, puis le film est vraiment très, très beau, là, pour vrai. Puis tu sais, c'est peut-être là aussi où il ne m'a pas nécessairement convaincu tant que ça au niveau de l'histoire. C'est qu'on dirait qu'il était quasiment plus intéressé à représenter un peu, à faire ce qu'on appelle en anglais des set pieces, là, des espèces de grosses scènes à grand déploiement avec beaucoup de chevaux, beaucoup d'acteurs, une cavalerie, des batailles, des trucs comme ça, toujours avec comme background justement le Monument Valley, puis les décors désertiques et tout dans un ciel bleu pétant, là, qui pourrait pas être plus bleu que ça. Moi qui est un grand fan de films qui sont beaux, là, qui sont visuellement très intéressants, ben, c'est sûr que ça m'a plu. Par contre, c'est ça, on tombe dans certains, peut-être, clichés du genre. Là. Tu mentionnais justement ce personnage-là qui est au bord de la retraite. Bon, il y a aussi, évidemment, le personnage là, qui est joué par, je crois que c'est Joanne Dru, qui est un peu l'espèce de fille-enfant là, qui n'a pas trop de pouvoir puis qui fait juste suivre la cavalerie un peu. Une espèce de triangle amoureux dans lequel au moins John Wayne n'est pas impliqué. Mais c'est ça, on retrouve quand même certains codes du genre. Qu'est-ce qui te plaît, toi, particulièrement dans She Wore a Yellow Ribbon?
C'est sûr qu'avec ce film-là, je reconnais là, tout ce qu'on peut lui critiquer, la représentation des femmes, des peuples autochtones... Mais j'y trouve, j'ai parlé plutôt de la poésie, puis il y a une scène, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film-là, parce que je trouve que c'est une des plus belles scènes dans les films de John Ford. C'est celle où John Wayne est dans le cimetière, puis là, il arrose la tombe de sa femme, puis derrière lui, le personnage de Joanne Dru, Miss Dandridge, on l'appelle Olivia dans le film, arrive derrière lui, puis son ombre se projette sur la tombe de sa femme, au personnage de John Wayne. Puis à ce moment-là, on sent que, parce que on l'a dit, il n'est pas dans le triangle amoureux, mais il y a comme une, quand tu vois ça, tu sais que il y a un peu une relation paternelle dans le sens où il veut pas la perdre, comme il a perdu sa femme et ses deux filles, parce que si on arrête sur l'écran, ça c'est ce qui est bien avec John Ford, c'est jamais dit verbalement, là, c'est montré par les images. Si on arrête sur l'écran à ce moment-là, tu vois que c'est le cimetière où est-ce que John Wayne va se communier. Là. Il y a les tombes aussi de ses deux filles, tout le monde est décédé la même journée, fait qu'on assume que c'est peut-être dans une attaque autochtone, ou en tout cas, c'est à une mort violente, disons.
Ouais.
Tu vois qu'il y a comme... Quand il va là, puis qu'il... Il fait comme une promesse à sa femme de ne pas perdre ses autres soldats, les subordonnés sous lui, ou de ne pas perdre ce personnage-là d'Olivia. Puis ça fait écho à ce que je disais plus tôt par rapport à John Ford. Puis tous ces regrets peut-être d'avoir perdu les gens subordonnés, la culpabilité d'avoir perdu les subordonnés sous lui durant la Seconde Guerre mondiale. Puis d'ailleurs, il a utilisé une partie de son salaire pour ce film-là, La Charge héroïque, pour financer une... j'ai oublié le terme exact, mais une maison de retraite pour les soldats de son unité à lui, là,
okay,
qui ont été affectés par la Seconde Guerre mondiale.
Ah, ben c'est très intéressant. Puis effectivement, tu sais, oui, c'est ça. Il n'est pas ressorti le seul non plus, un peu traumatisé de ce conflit-là. Puis ça va hanter là, plusieurs autres films américains de cette époque-là. Moi ce qui m'a beaucoup... tu mentionnes un peu, oui, il y a cette scène-là dans le cimetière, mais c'est globalement le jeu de John Wayne qui m'a vraiment épaté. Je te parlais hors d'onde, là, que finalement, ma grande surprise, c'est le premier John Wayne que je vois. J'ai tellement vu d'extraits ici, là, que je pensais que j'avais vu au moins un autre film complet. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans ma tête, John Wayne, c'était un peu... Tu sais, j'ai rien à dire nécessairement là, sur le charisme ou sur l'acting de Clint Eastwood, là, mais tu sais, il joue une espèce de macho là, quand il interprète ses cowboys. On dirait que je le voyais un peu comme ça, John Wayne, tu sais, une espèce de personnage très masculiniste, très macho, puis tu sais, pas de sentiment, je suis le meilleur dans tout et tout. Puis en tout cas, dans le petit échantillon que j'ai avec ce film-là, ben, il nous montre vraiment qu'il y a un range en tant qu'acteur, puis sa performance est vraiment très, très bonne, très charismatique. Oui, il joue un peu le boss. Oui, il y a ça, cet aspect-là de comme, je sais ce qui est bon pour tout, puis tu sais, tout ce qu'il essaie, il réussit ou à peu près. Mais il y a aussi une certaine sensibilité que je ne m'attendais pas nécessairement à retrouver dans son jeu, puis on dirait une espèce aussi de, je sais pas, d'aisance ou de... En tout cas, il crevait vraiment l'écran. T'sais, c'est clairement le meilleur acteur de toute la distribution. il est charismatique, t'as le goût de le suivre. Puis il y a quand même plus de dialogue que ce à quoi je me serais attendu. Il joue aussi un personnage qui est 20 ans plus vieux que ce qu'il était à l'époque.
Ouais.
Il m'a vraiment surpris dans ce rôle-là. Puis je pense que c'est cette année-là qu'il était en nomination pour un Oscar, mais pas pour ce film-là, pour un autre film qui est sorti aussi en 1949. Mais selon John Wayne, je pense qu'il disait que dans She Wore a Yellow Ribbon, c'était une de ses performances préférées, ou en tout cas une de ses meilleures performances selon lui. Je pense que juste pour ça, ça vaut aussi le détour. Là, ça et évidemment la beauté du film. Là.
Ouais, ben c'est sûr que des fois, c'est un cliché qui apparaît souvent par rapport à John Wayne, c'est qu'on pense qu'il a jamais joué. Puis tu disais, tu le comparais à Clint Eastwood, mais... C'est Pauline Kael, justement, lorsque, quand elle critiquait Clint Eastwood, elle lui disait, tu sais, tu joues pas John Wayne, lui, il était un vrai acteur. Il est comme, John Wayne, contrairement à ce qu'on peut penser, a joué des rôles... il a joué des rôles pas intéressants dans sa carrière, comme Gengis Khan. Il a joué des rôles complexes, comme celui-là, mais sur son meilleur, là, c'est celui dans La prisonnière du désert. Là, ça, c'est évident. Là, c'est son plus complexe. C'est celui où il ose le plus, mettons, chambouler l'image de héros qu'il pouvait projeter. Mais il a joué aussi, mettons, dans L'homme qui tue à Liberty Valance. Là, il a encore un rôle assez complexe. Il est pas... C'est de le réduire à celui qui a pas d'émotion. Je trouve que ça lui correspond pas tellement. Là.
Ouais, ben c'est ça. Il m'a donné envie de voir d'autres de ses films, justement, parce que c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais il m'a fait penser à Paul Newman. Je sais pas, puis ils ont clairement pas le même éthique de travail ou l'utilisation du method acting là, est très loin chez l'un ou chez l'autre. Mais je sais pas, à chaque fois que je vois Paul Newman dans un film, c'est souvent le meilleur élément du film. Puis j'ai vraiment l'impression qu'en regardant plus de films de John Wayne, je vais vraiment constater à quel point, justement, il est pas juste le good guy de service, là, qui est vraiment quelque chose de plus. Même dans ses mauvais films, probablement que c'est clairement le meilleur élément de ces mauvais films-là. Puis dans les bons films, ben là, je pense que quand il trouve un réalisateur un peu comme John Ford, qui est capable d'exploiter un peu le talent qu'il est capable de livrer, c'est vraiment intéressant. Ça m'a donné envie, en fait, de regarder d'autres films de Wayne. Là, fait que, tant mieux.
Ouais, tant mieux.
Sinon, concernant peut-être... Ben, je sais pas si tu avais des éléments à rajouter, peut-être. Là. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que le titre là, qu'on a de la difficulté à prononcer provient d'une chanson militaire aussi. À chaque fois que je regarde des vieux films américains et qu'il y a des chansons militaires, c'est toutes des airs qu'on connaît, mais que je sais pas d'où ça vient. Puis là, ben, She Wore a Yellow Ribbon, ben, c'est une chanson militaire sur... je me souviens plus exactement de la signification du ruban jaune. C'était
C'est un symbole que les femmes portaient dans la tradition de la cavalerie américaine pour dire que leur cœur était pris, dans le fond, ben, qu'elles avaient un amant ou un copain. Là.
Mm-hmm.
Okay. Ouais. Mais dans le film, il y en a qui ont étudié ça, puis c'est la couleur jaune veut plutôt correspondre, mettons, à la morale. Quand les personnages font des actions héroïques ou valeureuses, là, et tout d'un coup, la couleur jaune apparaît un peu partout sur leur uniforme, puis pour les femmes, dans leurs cheveux, par le ruban jaune. Puis tout d'un coup, quand ils font des choses plus, mettons, moralement répréhensibles, il y en a deux, à un moment donné, qui veulent se combattre, ben là, ils enlèvent toutes les couleurs jaunes disparaissent d'une manière ou d'une autre. Soit ils enlèvent leur uniforme, soit simplement, ils portaient pas du jaune ou du doré à ce moment-là. En tout cas, il y a comme... John Ford réinterprète un peu la signification de la couleur jaune. Puis, parce qu'en réalité, ce que j'ai lu, c'est que lui était fan de la précision historique, là,
mm-hmm.
mais il a contourné un peu cette règle-là non écrite en modifiant les uniformes. Il ne ressemblait pas à ça, les uniformes de la cavalerie. En les modifiant un peu pour correspondre à ce message-là. Ben, c'est un film vraiment sur... C'est un film, encore là, on le répète, mais qui valorise l'armée. Là, il voulait montrer les qualités morales que lui, ou la camaraderie que lui appréciait dans l'armée, avait apprécié durant son service durant la Seconde Guerre mondiale.
Puis c'est bien aussi que, tu sais, il n'est pas juste retourné à la couleur pour le fun, tu sais, qu'il utilise un peu les couleurs comme... symbolique, comme, tu sais, c'est ça, il met à profit vraiment les couleurs, ce qui réaffirme un peu, là, comme la scène avec dans le cimetière, ce qui réaffirme un peu l'espèce de subtilité de la réalisation de John Ford qu'on oublie souvent parce que c'est des films souvent des constructions très classiques, très très lents aussi, là, tu sais, ceux que j'ai vus, The Grapes of Wrath, Stagecoach, justement, tu sais, c'est des films qui prennent leur temps, même s'ils sont pas nécessairement longs, mais il y a une plus-value, pas nécessairement à la réécoute, mais tu sais, à vraiment juste s'imprégner un peu des scènes qui sont recréées avec cette fidélité justement un peu plus historique, puis ce souci d'essayer de recréer une époque qui est révolue, puis qui, on dirait que c'était une mission de John Ford à travers son œuvre.
Des fois, pour c'est comme on peut voir ce film-là puis dire qu'il est lent, ou on a plein de défauts, mais des fois, pour apprécier sa valeur, si on le compare à d'autres westerns de la même époque réalisés par les mêmes réalisateurs, on voit qu'on retrouve pas des fois la même poésie, on va pas retrouver la même complexité. C'est sûr, John Ford, il était comme tous les bons réalisateurs, tous les auteurs comme Hitchcock de cette époque-là, des systèmes, des studios, il était capable d'apposer sa patte, puis ses propres idées dans un système qui pouvait être très contraignant. Le western, c'est un des genres les plus codifiés qu'il y a eu dans l'histoire du cinéma, j'ai l'impression. Mm-hmm. Là. Ça pouvait être très répétitif. C'était pas des films qui étaient considérés comme sérieux à l'époque. Là. Mais John Ford a un peu bousculé ces idées-là en faisant des films plus personnels, ben, ou plus... en apportant de la plus-value là, à travers ce qu'il faisait.
Donc, ceux et celles qui veulent visionner le film, il est disponible sur Amazon Prime. À ma grande surprise, quand même, là, je pensais qu'il allait être sur Criterion, je sais pas trop. Mais non, sur Amazon Prime, donc vous pouvez aller le visionner là. Maxence, merci beaucoup de nous avoir présenté She Wore a Yellow Ribbon, ou le titre en français, j'ai déjà oublié.
La charge héroïque.
La charge héroïque. J'ai juste cavalerie dans la tête. Là, mais, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines, je crois, là, pour une autre chronique. Merci beaucoup, Maxence.
Oui, merci à toi. Au revoir.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. les uns aux autres sans arrêt.
C'est déjà tout pour cette émission très chargée de ciné-histoire cette semaine. J'aimerais remercier évidemment l'équipe du film La Petite et le Vieux qui sont venus me voir en studio. Donc, Patrice Sauvé, Marilyn Castonguay, Juliette Baroucha et Sébastien Girard. Je remercie également Maxence Gagné. Là, on va bientôt se parler du cinéma d'Anaïs... Alanis Obomsawin. On va en discuter un peu plus dans deux semaines probablement. Et je vous parlais un peu plus tôt à l'émission d'un projet spécial. Ben, c'est que j'ai comme projet de faire une émission spéciale sur la carrière et la vie de Francis Ford Coppola à l'occasion de la sortie du film Megalopolis. Ce sera la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera un peu plus calme au niveau des sorties à venir. Il n'y a pas une tonne de gros films. Il y a The Apprentice, le film sur Trump. Également le documentaire de Félix Rose qui s'appelle La bataille de Saint-Léonard, voilà. On aura une entrevue aussi avec lui, mais on aura une émission spéciale toute Coppola pour la semaine prochaine. Vous ne voudrez pas manquer ça et mon appréciation de Megalopolis. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma et on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné-Histoire.